Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Voici l'histoire de Diams, qui était une jeune chanteuse de rap, star parmi les stars au début des années 2000, et qui, en 2010, a tout envoyé balader. La vie de star du showbiz ne lui plaisait pas, elle y a mis un terme d'un coup. Et elle, qui était baptisée catholique mais non pratiquante, s'est convertie à l'islam et s'est mise à porter le voile. Et à l'époque, on n'a pas compris. Et si ça vous intéresse de comprendre, alors écoutez donc son histoire que j'ai tirée de son autobiographie, publiée chez Point. La réalisation est de Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelat.
Je vais me livrer aujourd'hui à un exercice intéressant, très intéressant. Je vais vous raconter deux fois la même histoire. Une fois version paillette et une fois version off, version réalité, crue, dure. Les gens rêvent d'une vie de star, une vie de gloire, une vie dans la lumière. Personne ne sait ce que ça veut dire vraiment et comment ça peut venir percuter, détruire l'envie légitime que l'on peut avoir d'être juste, juste quelqu'un de bien. Rien de plus. C'est parti ? Alors voilà la version paillette de mon histoire. J'ai choisi de la débuter en janvier 2007 à Cannes, le soir des Energy Music Awards. Cette cérémonie qui récompense les chanteurs français uniquement par le vote du public. Et elle est là, Diams. Bien sûr qu'elle est là. L'année dernière, elle a vendu plus de 600 000 exemplaires de son troisième album, Dans ma bulle. Elle est là, souriante comme toujours. Bien sûr, elle n'a pas mis de robe de soirée. Elle est rappeuse. Elle a mis un jean et par-dessus une jolie tunique. Mais elle a quand même enfilé des talons à paillettes. Elle est nommée pour le prix le plus prestigieux de la soirée. La chanson francophone de l'année. Pour cette chanson qu'elle va chanter là, maintenant, devant tous ces gens qui l'acclament. La boulette.
Je suis une boulette, me demande pas si j'aime la vie. Moi j'aime la rime, mais j'en viens pas. Juste parce que ça fait zizi.
Là, à Cannes, elle rafle tout. Album francophone de l'année, artiste féminine de l'année et chanson francophone de l'année pour La Boulette. On la voit qui saute partout dans les bras de son équipe et puis elle monte sur scène avec eux et elle prend le micro.
Je suis choquée, pas la boubou quand même. Je voudrais... Non, là, je voudrais vous dire simplement que... Je sais pas, je vous kiffe. Merci, merci à tous, toutes les boulettes de France. Merci à tous les gens qui sont venus me voir en concert.
Et après boîte de nuit, bien sûr, avec toute sa clique et les chéris du show business. Oh ma chérie, tu as été tellement formidable. C'est vraiment mérité tout ce qui t'arrive. Je suis trop contente pour toi. Cette soirée consacre une incroyable réussite. Une fille, rappeuse, chanson de l'année, artiste de l'année, album de l'année. C'est un conte de fées. Et après, ça continue. Dans ma bulle, dépasse les 1 million d'albums vendus. Disque de diamant. Et dans la foulée, tournée mondiale, s'il vous plaît. Enfin, mondiale francophone. Les Antilles, Madagascar, Nouvelle-Calédonie, Maroc... La journée à la plage, le soir, des concerts complètement dingues avec 7000, 8000 personnes. Et puis retour en France pour la tournée des festivals d'été. Avec cet album Dans ma bulle, Diams est devenue une star à 26 ans. Et la belle aventure se poursuit l'année d'après, en 2008. En mars, elle est même invitée à chanter aux très sérieuses Victoires de la musique. Elle n'est pas nominée puisqu'elle n'a pas sorti d'album cette année. Mais elle est là, naturellement, pour chanter son autre tube.
C'est pas ma France à moi, c'est France profonde. Celle qui nous fout la honte et aimerait que l'on plonge. Ma France à moi ne vit pas dans le mensonge. Avec le cœur et la rage à la lumière, pas dans l'ombre. C'est pas ma France à moi, cette France profonde, non. Ma France à moi ne vit pas dans le mensonge, non.
Les victoires, c'est parfois un peu tristoun, un peu coincé. Mais là, les gens se lèvent, tout le public.
On t'aime, Gams.
Merci.
On t'aime.
Merci, moi aussi. Merci.
À tout à l'heure.
Elle est émue. Elle a les larmes aux yeux. Et on pourrait croire que ce sont des larmes de joie. Eh bien non. Car dans un instant, je vais vous raconter la même histoire, mais version Diams. L'histoire d'une jeune fille qui s'est perdue dans le show business. On reprend exactement au même moment la soirée des Energy Music Awards à Cannes, le 20 janvier 2007. Vous savez le moment où elle chante « La boulette » sur scène. Ce soir-là, elle rafle 3 prix. Et elle file avec toute son équipe et les chéris-chéris du showbiz en boîte de nuit. Mais dans la version off, ça ne lui plaît pas du tout. Tout ce charivari, ces litres d'alcool. À peine arrivée, elle n'a qu'une envie. Rentrer à son hôtel. Alors elle sourit, oui. Mais elle se force. Elle reste parce qu'elle doit rester. Elle dira plus tard qu'elle était esclave de sa gloire. Et le lendemain, dès le réveil.
Allô ? Oui, bonjour, vous êtes James ? C'est pour vous proposer de porter nos baskets. On vous en envoie une paire si vous voulez.
Ah non, non. Ça va, merci.
Ce sont des baskets très à la mode, vous savez ?
Non, je vous ai dit non.
Et quand ce n'est pas des baskets, ce sont des marques de fringues ou des marchands de téléphones portables qui veulent lui faire des cadeaux. Vous ne saviez pas ça, hein ? Mais les stars reçoivent des tonnes de cadeaux, 365 jours par an. Sauf que Diams, elle ne marche pas à ça. Elle choisit les fringues qu'elle porte, point. Elle n'est pas extravagante de toute façon. Elle est réservée, elle est pudique, elle est même un peu complexée. Elle aime chanter, mais tout le reste, elle déteste.
Déjà, quand j'étais dans le feu de l'action, j'oubliais ma souffrance. Ça, c'est vrai. J'étais sur scène et là, tout d'un coup, c'était l'explosion. C'est les à côté qui étaient très douloureux. C'est le silence, c'est l'angoisse, c'est la solitude. Ça, c'est des choses que j'ai eu beaucoup de mal à gérer. L'arrivée du statut de star qui ne me convenait pas. Certes, j'ai essayé de kiffer, mais j'y suis jamais arrivée. J'ai essayé d'aller m'amuser dans des soirées, j'ai essayé de pipoliser, j'ai essayé tout ça. Tout ce que quelqu'un a rêvé d'avoir dans une vie de star, je l'ai eu. J'ai cru à ce rêve, et effectivement, c'est un leurre.
Même l'argent, ça ne l'intéresse pas. De toute façon, elle n'a pas le temps de le dépenser. Mais ça la culpabilise de gagner tant d'argent, parce qu'elle en gagne. Elle en gagne beaucoup. Elle voudrait tout donner à des associations, à l'Afrique. Elle voudrait aider les autres. Mais même ça, elle n'a pas le temps. Pour ses amis non plus, elle n'a plus le temps. Et d'ailleurs, elle en a beaucoup perdu dans cette aventure. Tout ça, si on tend bien l'oreille. Elle le dit dans ses chansons. Dans celle-là, par exemple.
Voici fin 2007, je me retrouve seul dans mon appart, dans ma tête, c'est le casse-tête, je suis millionnaire, en dollars, je me sens coupable, c'est beaucoup trop pour mes petites épaules, Dieu est-il si bon que ça, ai-je vraiment rempli mon rôle ?
On ne peut pas dire que James n'est pas entouré. En tournée, il y a 40 personnes qui gravitent autour d'elle. Et pourtant, elle se sent seule. Elle le dit, elle se plaint tout le temps.
Je me sens pas bien. Je suis trop mal.
On la traite d'enfant gâté.
T'as tout pour une vie heureuse, James. Comment j'aimerais être à ta place? Profite de la vie.
À la fin de l'été 2007, à la fin de la tournée, Mélanie, car c'est son vrai prénom, se retrouve dans l'appartement tout neuf qu'elle vient de s'acheter, dans le 16e arrondissement de Paris, chez les Bourges. Plus de concerts, plus de voyages, plus de palaces, plus de collègues, plus de rien. Et l'angoisse qui monte. Et la nuit, impossible de fermer l'œil. Alors elle prend des somnifères. Et puis elle voit se profiler les fêtes de fin d'année. Elle se dit qu'elle va les passer toute seule. Elle s'achète un billet pour l'île Maurice. Elle y est déjà allée deux fois. Elle se sent bien là-bas. Ça va lui faire du bien. Et ma foi, peut-être qu'elle pourra se lancer dans l'écriture de son prochain album. Mais sur place, le vide artistique, et cette pression qu'elle se colle. Si je refais pas un bon disque, le public va me lâcher. Alors elle pleure. Elle pleure pendant des heures.
Ah ouais, j'ai pleuré tout seul. En fait, c'est ça que les gens ils voient pas. J'ai envie de dire, mais est-ce que c'est ça la vie? Est-ce que c'est réussir sa carrière? Moi, je sais que c'est pas ça. J'étais malheureuse, j'étais seule dans mon lit. Il m'arrivait de pleurer, mais vraiment comme un bébé, hein, à ne pas savoir ce que je fichais sur la terre.
Elle est tellement mal, Mélanie, qu'elle échoue dans une clinique psychiatrique. La villa des Pageaux, Vésinet, dans les Yvelines. Un lit, une place, une petite salle de bain, pas de téléphone, pas d'internet, et pas le droit de sortir de la clinique, juste la possibilité de se promener dans le jardin. Ça lui va bien. Tous les jours, elle voit le psychiatre, 20 minutes, elle lui raconte sa vie. Son père chypriote, qui l'a abandonné à 4 ans, qu'elle a vu un peu jusqu'à ses 10 ans, et puis plus de nouvelles. Elle prend des cachetons, bien sûr, dès qu'ils réveillent et dès qu'ils font dormir. Et petit à petit, elle reprend pied. Et là, tombe le diagnostic des médecins. Elle est bipolaire, Mélanie. Autrefois, on disait maniaco-dépressif, c'est la même chose. C'est une vraie maladie. C'est une psychose qu'on peut stabiliser avec un bon traitement. Mais c'est une tuile. C'est une vraie tuile dans une vie. Cette scène se situe juste avant la fameuse soirée des Victoires de la Musique. Je vous ai raconté tout à l'heure cette soirée où Nagui dit
« On t'aime, Gaz.
Merci.
On t'aime.
Merci, moi aussi. Merci.
À tout à l'heure. »
Je vous l'ai dit tout à l'heure. Quand elle sort de scène, Diams pleure. On pouvait penser que c'était des larmes de joie.
Ce que les gens ne savent pas, c'est que je suis complètement stone, quoi. J'ai pris beaucoup de cachets, je sors de clinique psychiatrique. Je fais le truc parce qu'il faut le faire. Et là, tout le monde se lève. Et ça me dépasse complètement. J'ai même pas pu retenir mes larmes. J'avais envie de dire aux gens, mais arrêtez. Vous savez pas. Là, vous voyez une enveloppe, mais dedans, c'est mort. Il n'y a plus rien. Je suis vide, je suis triste, je suis malheureuse. Je n'aime pas ma vie, je n'aime pas la vie.
Alors je cherche des réponses à mes doutes, mes cicatrices. Petite star, je suis finie, vue de la clinique psychiatrique. J'en sors en vrac, vrac, les médocs me montent au crâne. Aux Victoires de la Musique, ma gloire me monte aux larmes.
Deux jours après ces Victoires de la Musique 2008, Diams est de retour à la clinique psychiatrique du Vésinet. Et dès qu'elle sort, elle appelle son père, qui vit à Chypre, et avec lequel elle a toujours eu des relations très difficiles. Son père qui l'a abandonnée petite, sa blessure. Et elle va le rejoindre à Nicosie, la capitale de Chypre, pour tenter de lui parler. Mais le courant ne passe pas. Alors au bout de 3 jours, elle rentre. Et elle se retrouve telle une loque chez elle, assommée par les cachetons, cloué par la dépression, fichu maladie. Et puis, il faut bien qu'elle replonge. Elle a des dates de concert à honorer. Elle doit chanter à Yaoundé, au Cameroun. Et la voilà qui s'envole vers l'Afrique. Le stress, elle a oublié les paroles de ses chansons. À cause des médicaments, bien sûr. Alors comme à l'école, elle s'écrit des antisèches au creux de sa main. Le jour du concert, sur la place de l'hôtel de ville de Yaoundé, waouh la folie! On lui avait parlé de 20 000 personnes. Il y en a au moins 80 000 devant elle. Une dinguerie! Les gens sont serrés comme des sardines. Ça lui fait peur. Et Diams, dans l'état dans lequel elle est, ça l'angoisse. Elle annulerait bien, tiens, pour des questions de sécurité. Mais the show must go on. Et la voilà sur scène. Et au bout de quoi, à peine une minute, le blackout total, panne générale d'électricité. Et donc concert annulé. Retour en France, retour à la dépression. Et un après-midi de mai, en pleine crise d'angoisse, Mélanie avale tous les somnifères de sa pharmacie. Et elle appelle les pompiers.
Le jour où, en fait, j'ai eu envie de dormir. C'est-à-dire qu'en fait, je voulais pas mourir, parce que j'ai jamais vu la mort comme un repos, personnellement. Mais toujours cette envie, ouais, de dormir. Et la souffrance était assez grande pour qu'on préfère me garder à l'étroit, pour que je ne fasse pas de mal aux autres et que je m'en fasse pas à moi-même, effectivement.
Elle se retrouve à l'hôpital à Courbevoie, lavage d'estomac. Elle est sauvée. Et elle embobine le psychiatre qui la laisse sortir. Parce que demain, elle est en studio. Demain, elle enregistre une chanson, un nouveau titre de son prochain album. Et ça passe. Personne ne s'aperçoit de l'état dans lequel elle est. Dans la foulée, elle s'occupe d'elle. Elle voit des psychologues et des psychiatres. Et on lui dit que peut-être elle n'est pas bipolaire, mais dépressive. Juste dépressive. Ah, la psychiatrie. Science désespérément molle. Ensuite, vacances chez une amie, au soleil, près d'Aix-en-Provence. Et c'est une conversation avec sa copine Charlotte qui va lui faire comme un électrochoc. Comment tu te sens, Mélanie ?
Je vais mal, Charlotte. Je vais mal. J'ai raté ma vie. Je vaux rien.
Mais non, tu vas arrêter ton délire, là. C'est quoi ce truc de dire que t'es nul ? T'as ta mère, t'as tes amis qui sont là. T'as vendu des millions de disques. Les gens te kiffent. T'as une vie de rêve. Allô, quoi ? Tu nous saoules, James. Tu crois que c'est ça, la vie ? Non, c'est pas ça, la vie, Mélanie.
Alors, quand elle rentre à Paris, c'est décidé. Elle va se secouer les puces. Et tiens, si elle passait son permis de conduire pour commencer. Et elle dit des choses dans ses chansons.
Alors je fuis, je voyage, et Maurice et Bali. Je rêve autant des Maldives que de marcher au Mali. Mes amis me soutiennent, me motivent et me guettent. Et ma mère cache sa peine sous des milliards de je t'aime. Je suis à court de force quand dans la rue on me désigne. J'aime l'amour que l'on me porte, mais pas que l'on me surestime. Ça me gêne tous ces regards, ces filles en larmes. Quand elles me croisent, la gloire des médias me dépasse. Donc désormais je la toise.
Un soir de décembre 2008, elle est à Lyon avec Charlotte et sa copine Soussou. Et à un moment donné, Soussou, qui est musulmane, dit
« Excusez-moi les filles, je reviens, je vais prier. »
Et là, Mélanie lui dit
« Attends, je te suis, je viens avec toi. »
Elles sont toutes les deux dans la salle de bain pour se purifier. Et Mélanie se met à prier. « Oh mon Dieu, toi qui m'entends, soigne mon cœur, je t'en supplie. Soigne-moi, je vais si mal, si mal. Personne ne comprend ma souffrance. » Mélanie, jusque-là, était catholique, non pratiquante, mais catholique baptisée. Elle vient de rencontrer Dieu avec une musulmane. Elle cherchait une bouée de sauvetage. Eh ben, elle l'a trouvée. Sa première prière dans cette salle de bain de Lyon avec sa copine Soussou a été comme une révélation.
Tout du long de cette année où j'ai enchaîné la psychiatrie, les médicaments, la dépression, les tentatives de suicide et tout, j'ai toujours été croyante, mais j'avais beaucoup de mal à me raccrocher à Dieu. C'est-à-dire que j'en faisais pas un axe central dans ma vie. Et c'est vrai que par moment, par tranche, des fois j'avais un peu de lucidité, je me disais tiens, j'aimerais tellement parler à Dieu. Puis finalement, on lâche l'affaire, ça se fait pas. Et puis là, tout d'un coup, il y a une copine qui vous dit, ben moi, je vais prier. Et je dis, mais moi aussi, je veux prier. Moi aussi, je veux parler à Dieu. Et elle me dit, ben, viens. Enfin, et j'ai vécu un moment... Pour la première fois de ma vie, j'ai mis mon front sur le sol. Ça a été quelque chose... C'est pas quelque chose qu'on fait devant un autre que Dieu.
Et après, Mélanie, qui n'est déjà presque plus Diams, fait sa prière tous les jours, seule. Pour la première fois, la solitude ne lui pèse pas. Au contraire, sa conversation avec Dieu lui fait du bien et ça l'inspire même. Elle reprend la plume, elle se remet à écrire des chansons, elle a retrouvé l'inspiration. Et en parallèle, elle se lance dans la lecture assidue du Coran. Soussou lui a prêté un exemplaire, ça la subjugue. Elle y trouve une sorte de quiétude, elle dort mieux, pas beaucoup, mais mieux. Elle n'a plus d'angoisse, elle peut même arrêter les médocs complètement. Et quand elle a fini de lire le Coran, c'est décidé. Elle va se convertir. Et ça, c'est pas bien compliqué. Il suffit de dire « Il n'y a de Dieu que Dieu et Mahomet est son prophète ». Et c'est fait. Ça se passe sur une plage de sable fin de l'île Maurice, où elle est revenue prendre l'air. Elle s'agenouille face à la mer bleue turquoise, à l'ombre d'un palmier. Elle lève la tête vers le ciel. Elle prononce la phrase rituelle et elle ajoute « Oh mon Dieu, sois témoin que je veux me convertir à l'islam. J'ai lu ton livre et je suis prête à tout suivre et tout pratiquer. Pardonne-moi pour mon passé, car je ne savais pas. » Et quand la nuit tombe, lui vient alors une idée folle. Elle va sortir un nouvel album, mais ce sera sans promo. Parce que maintenant qu'elle est convertie à l'islam, elle voit bien le piège qui s'ouvre. Les journalistes ne vont lui parler que de ça, que de ça. Et elle ne veut pas passer son temps à s'expliquer devant des gens qui n'ont même pas la foi. Donc, elle va faire un album, le quatrième. Elle entre en studio en mars 2009 à Paris. Il s'appellera SOS et ça sera le dernier.
À l'approche de la trentaine, j'appréhende la cinquantaine, mais seul Dieu sait si je passerai la vingtaine. Mon avenir et mes rêves sont donc entre parenthèses. À l'heure actuelle, j'ai mis mes cicatrices en quarantaine. J'écris ce titre comme une fin de carrière. Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu, puis j'ai fait marche arrière. S'il était mon dernier morceau, j'aimerais qu'on se souvienne que derrière mes paroles affreuses se cache, c'est une reine.
Je vous l'ai dit, Mélanie a décidé de ne pas parler aux journalistes. Mais les journalistes, eux, on ne les changera pas. D'autant que, en septembre, elle s'est mariée. Ça ferait une jolie couverture, ça. Diams et son mari musulman. Un matin, quelques semaines avant la sortie de l'album, elle reçoit un coup de fil d'une copine.
Allô, Mel ? T'as vu Paris Match ?
Non, pourquoi ?
Eh ben, cours l'acheter.
Elle fait la une de Paris Match. Un paparazzi l'a photographiée sortant de la mosquée avec son mari. Elle porte un voile noir de la tête aux pieds. On ne voit que son visage.
On m'a volé. On m'a volé une partie intime de ma vie. Ma mère ne m'avait jamais vu habillée comme ça. Ni mes grands-parents, ni mon oncle, ni mes amis. Tout le monde a perdu pied. Hein. Mon entourage proche, certes, mais les gens qui travaillaient avec moi, j'ai perdu quasiment... grande partie de mon équipe parce que plus personne n'avait confiance.
Son album SOS sort en novembre 2009. Il entre directement numéro 1 des ventes. Elle en vend 300 000 exemplaires. C'est moins que le précédent, mais c'est beaucoup. Dans la foulée, avec une casquette pour cacher ses cheveux, elle écume les zéniths de France et de Navarre. Elle chante dans les festivals tout l'été 2010. Et après, elle redevient Mélanie. Point. Dans son autobiographie qu'elle publie en 2012, elle écrit « Je suis descendue de l'estrade. J'ai repris ma place auprès du peuple. J'aimerais lui dire que personne n'a le droit d'être au-dessus des autres pour vendre du rêve. Un rêve qui ne changera jamais la vie de l'affamé ou du jeune qui erre dans cette société, sans savoir où il va. Un rêve qui ne changera jamais la vie du père de famille qui galère à la fin de chaque mois ou d'une mère détruite à petit feu par son travail à la chaîne et qui préférerait peut-être rester chez elle, auprès de ses enfants. » Voilà. Aujourd'hui, Diams a divorcé, elle s'est remariée et elle est maman de deux enfants. J'ai tiré cette histoire des deux livres de Diams, Mélanie Georgiades, aux éditions Point, Diams autobiographie et Mélanie française et musulmane.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.